Bonjour, aujourd'hui nous allons écouter les chroniques de 4ème verte du collège de Saint-Rémeur. En premier, nous allons écouter les chroniques sur Flash de Jimmy et Farrell.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de Flash.
Flash, né à Central City, de ses surnoms Éclair Rouge et Rayon Rouge, de son vrai nom Barry Allen.
Les différents Flash sont tous dotés de la capacité de se déplacer à très grande vitesse. Le premier Flash a été créé par Garner Fox et Harry Lampert.
Barry Allen devient orphelin à l'âge de 10 ans après que son père, le docteur Henry Allen, a été accusé de meurtre de son épouse Nora. En réalité, assassiné par Reverse Flash, un voyageur temporel vouant une haine à Flash.
Super vitesse, contrôle les molécules de son corps, voyage dans le temps, guérison accélérée, ralentissement du temps.
Reverse Flash, le pire ennemi de Flash. Chaque Flash a son propre Reverse Flash. Pour Jay Garrick, c'est le rival. Pour Barry Allen, c'est Zoo.
Barry Allen est un jeune scientifique qui travaille pour la police de Central City. Enfant, il est témoin du meurtre inexplicable de sa mère, pris au piège dans un tourbillon d'éclairs. Dès lors, il se met à croire au surnaturel et cherche le moyen de le prouver pour faire innocenter son père emprisonné. Puis un jour, touché par un éclair provoqué par l'explosion de l'accélérateur des particules dans les laboratoires de Harrison Wells, Star Labs, Barry va sombrer dans le coma pendant 9 mois.
À son réveil, il découvre qu'il peut courir à une vitesse surhumaine, peut guérir de façon accélérée. Il va réaliser par la suite qu'il n'est pas le seul à avoir obtenu des facultés surhumaine, car d'autres personnes ont été touchées par l'explosion de l'accélérateur de particules faisant d'eux des méta-humains.
Après cette chronique rapide sur Flash, nous allons écouter la prochaine chronique sur Steven Spielberg de Yanis.
Durant son enfance, Steven Alan Spielberg réalise quelques petits films amateurs, puis abandonne rapidement pour tenter sa chance à Hollywood. Il apprend son métier dans les années 60 en réalisant des courts-métrages et un long-métrage qui est Firelight. Dans les années 70, il sort Les Dents de la Mer, qui fut son premier grand succès en terrifiant le monde entier. C'est d'ailleurs la bande-son originale Les Dents de la Mer que vous entendez en fond de sonore. Le même succès des Dents de la Mer, atteignant pour la plupart les signes du box-office international et s'inscrivant dans l'imaginaire de millions de spectateurs. C'est d'ailleurs à lui et ainsi qu'à son ami George Lucas avec sa Guerre des Étoiles que l'on doit les premiers films de toute l'histoire du box-office américain capables de pulvériser les 100 millions de dollars de recettes sur le seul territoire national. Aujourd'hui, avec 58 ans de carrière, 141 films, 31 séries et 12 récompenses, il est l'un des plus grands réalisateurs producteurs du monde.
Après cette chronique, passons à la suite. Chronique sur YouTube, Nolan et Ethan.
Nous allons vous présenter une chronique sur YouTube. C'est l'injustice entre YouTube et les médias du style télé, radio, etc. Tous les reportages sont pensés sur l'argent et leur travail considéré comme un travail facile par les médias. Alors que les youtubeurs font un vrai métier, on va écouter un chroniqueur télé et les commentaires d'un youtubeur nommé Cyril.
Il et elle sont leurs idoles, vous n'en avez sûrement jamais entendu parler. Plongez dans cet univers, pas loin d'être interdit aux plus de 18 ans.
Ah ! D'accord, donc sur Internet, vous l'avez compris, les parents déjà ne connaissent pas Internet. Sur Internet, de toute façon, il n'y a que des gens de 12 ans, on le sait tous. Enfin, moi j'ai 12 ans par exemple, c'est une fausse barbe. Direction la maternelle ! Wouh ! Limite, on dit que c'est pas un vrai métier. Bah, YouTube, c'est pas un vrai métier. De toute façon, vous êtes tous moins de 18 ans. Eh, vous êtes des gamins, c'est pas un vrai métier ! Gagner de l'argent, ah ouais.
YouTube est un site web d'hébergement de vidéos et un média social sur lesquels les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos. Il a été créé en février 2005 par trois anciens employés de PayPal et racheté par Google en octobre 2006 pour 1,65 milliard de dollars. En 2018, chaque mois, YouTube compte plus de 1,9 milliard d'utilisateurs connectés. La chaîne PewDiePie est la chaîne la plus regardée avec 20,1 milliard de vues. Cette chaîne est également la plus suivie avec 82 millions d'abonnés. La vidéo de la musique Despacito de Lucentis est la plus regardée avec 5,9 milliards de vues en janvier 2019.
Les youtubeurs sont victimes de nombreuses critiques dans les médias du style télé, radio, etc. Les reportages sur les youtubeurs sont souvent penchés sur l'argent et les clichés sur leur travail. Les médias traitent cette plateforme de travail facile, ce qui insupporte tous les youtubeurs. YouTube commence à attirer de plus en plus d'utilisateurs de tout âge. Une guerre entre Internet et la télévision. Cette phrase souvent utilisée par les youtubeurs pour décrire les commentateurs télé qui souvent critiquent leur métier, le métier de youtubeur, sans vraiment le connaître.
On va écouter à nouveau un chroniqueur télé et le commentaire d'un youtubeur nommé Cyril.
Pourquoi les youtubeurs fascinent-ils les jeunes? Quelle influence ont-ils sur les ados?
Bah que de la mauvaise influence, on est là que pour faire du mal de toute façon.
Vous êtes même déjà vieille par rapport,
oui,
aux autres youtubeurs.
Un dinosaure.
30 ans.
Au moins.
Oui, mais c'est vrai, ils ont 19 ans les autres.
YouTube, un nouveau métier. Cite les commentateurs, radio, télé, etc. Compliqué pour certains youtubeurs de se faire une place dans ce monde où les plus grands se sont bien affirmés, tandis que certains ont des millions d'abonnés qui les suivent. Des clichés de la télé du style « Sur YouTube, il n'y a que des enfants de toute façon », pour certains chroniqueurs que nous ne citerons pas, les youtubeurs ont une moyenne d'âge de 15 ans à 19 ans.
Sachant que maintenant, cette plateforme est devenue un métier, la monétisation des vidéos a été mise en place. Une marque qui vous contacte ou vous qui contactez la marque et un placement de cette marque dans la vidéo et la YouTube monnaie dans la poche. Une autre façon de se faire de l'argent est d'activer la monétisation des vidéos après un certain temps de vidéo qui est de 10 minutes minimum qui fait apparaître une pub dans la vidéo qui, elle, vous fournit un salaire tous les mois. On va écouter à nouveau un chroniqueur télé et le commentaire d'un YouTuber nommé Cyril.
Il y a un salon qui s'appelle Video City, qui est le salon des youtubeurs français.
C'est l'équivalent de Disneyland, mais avec des youtubeurs.
Ouais.
Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald et Dumbo, mais les vrais du coup.
Oui, sauf qu'on est des artistes un petit peu. Donc.
Ah ouais, c'est vrai.
Mais l'argent.
C'est un truc qui clique des milliers
d'euros. Et l'argent quand même.
La pub, c'est ce qui permet aux youtubeurs de gagner de l'argent. La télé est remontée contre les youtubeurs, car des jeunes font presque mieux leur travail que eux-mêmes.
Une petite musique, Kaigo.
It never fades away, it's staying, your kiss like broken glass on my skin.
Après cette musique, une chronique sur le moyen de transport du futur.
Bonjour, je m'appelle Lina et aujourd'hui avec Ilan, on va vous présenter les différents moyens de transport du futur.
On vous présente ce sujet parce que plus tard, ça nous concernera directement.
En premier, on va vous présenter les moyens de transport plutôt rapides, plutôt lents.
Il y a le Wheelbix, c'est un vélo amélioré à moteur, il n'est pas facile à décrire, il a une hauteur de environ 1m10. Le guidon se situe à la hauteur des cuisses. Il comporte une petite roue à l'arrière et une grosse roue à l'avant. Il est assez ridicule.
Il y a les overshoes, ce sont deux petits overboards pour chaque pied. Et maintenant, nous allons vous présenter les moyens de transport du futur plutôt rapides.
Il y a le drone Eyang 184. C'est un drone à une place pouvant aller jusqu'à 100 km/h avec une autonomie de 25 minutes.
L'avion Clip Air, c'est un avion modulable, c'est-à-dire qu'il change de forme. Il est composé de trois petits avions placés sous un gros avion qui ressemble à un poisson-raie.
Et le bateau Sea Bubble, il ressemble à un robot avec des piliers qui ressemblent à des pattes. Elle lui sert à se propulser hors de l'eau. Il peut atteindre les 40 km/h.
Ces moyens de transport sont très pratiques et écologiques.
Peuvent-ils être dangereux?
Le risque zéro n'existe pas. Cependant, tout est fait pour limiter les risques.
Ces moyens de transport du futur ne seront pas tous d'une grande utilité. Certains seront plutôt des gadgets que des aides au quotidien, comme les overshoes et le bateau Sea Bubble.
Après cette chronique du futur, nous allons écouter une nouvelle chronique. Anonymous.
Les Anonymous est une communauté de personnes où tous s'expriment en utilisant un seul et même pseudonyme, Anonymous. Les Anonymous sont des activistes. Ils sont tout le monde des personnes. N'importe quel internaute peut devenir un Anonymous dès qu'il participe à leur action. Ces internautes cachés derrière des pseudonymes forment beaucoup d'anonymes insaisissables. Pas de chef, pas de responsable, tous les participants sont sur un pied d'égalité, avec le même pouvoir voulu. Tout internaute peut se connecter à leur réseau de discussion instantanée dit IRC. Les Anonymous ont été créés entre 2003 et 2004.
Ils ont plusieurs types de communautés. Des communautés virtuelles et réelles qui expriment leur militantisme autant sur Internet qu'en manifestation. Les Anonymous ont en général des masques sur la tête quand ils manifestent pour pas qu'on ne voie leur vrai visage. Anonymous n'est pas forcément un mouvement de piraterie du web. C'est une communauté où la liberté d'expression se traduit par un anonymat radical.
Une faible majorité se consacre à l'activisme. La plupart des Anonymous se concentrent du troll sur Internet. Quelques petites définitions. Les Anonymous ont leur propre vocabulaire. Une arme, c'est entrer dans les bases de données pour récupérer leur contenu. Des actions, c'est une fuite de documents du FBI, des données bancaires de clients Sony, 430 mégaoctets de données financières d'Universal.
Pirater ou hacker, c'est reproduire une œuvre illégalement sur un ou s'introduire par effraction dans un réseau ou un ordinateur. Leur message politique est de supprimer YouTube, Twitter et Facebook pour protéger de la vie privée des utilisateurs de ces réseaux en supprimant leurs données.
Nos avis sur les Anonymous.
Je trouve que les Anonymous, c'est illégal de pirater les sites internet et de récupérer les données de cartes bancaires et les revendre sur le dark web ou autres sites, mais ceux qui manifestent sont moins cruels, donc j'en conclus que les Anonymous sont des personnes pas super bien.
Personnellement, je n'ai pas trop d'avis, mais je trouve que les Anonymous peuvent être des fugitifs dangereux s'ils ont des accès à les dossiers ou les serveurs, car ils peuvent faire de n'importe quoi.
J'ai un peu le même avis qu'Aubin, je suis ni pour ni contre tant qu'ils n'utilisent pas les données personnelles.
Après cette chronique, passons à une chronique sur le braconnage.
Le braconnage. Les braconniers sont des personnes qui tuent les animaux soit pour se nourrir gratuitement, obtenir de la fourrure ou de l'ivoire, ou pour capturer des animaux rares et les vendre. Si les autorités surprennent les braconniers sans permis de chasse, alors ils peuvent leur donner une amende. Aujourd'hui, le braconnage des espèces sauvages est le quatrième marché après la drogue, la contrefaçon et le trafic d'êtres humains dans le monde. Les braconniers vendent des peaux de lion, de crocodiles et des cornes de rhinocéros et des défenses d'éléphants pour récupérer l'ivoire contre beaucoup d'argent.
L'ivoire est à 800 euros le kilo.
D'autres espèces d'animaux sont menacées, pouvant même aller jusqu'à l'extinction d'une espèce. Exemple, le grand requin, 100 millions d'individus tués par an. Le dauphin de l'Irrawaddy, en 2004, il ne reste que 1000 individus. Le tigre du Bengale, entre 3000 et 4000 individus. Le panda géant, il ne reste que 1750 individus. Et le gecko, 2000 individus capturés ou tués par an. Des drones d'animaux pour lutter contre le braconnage. Ce sont des drones en forme d'animaux pour protéger les animaux susceptibles d'être braconnés.
En Afrique, des parcs et des réserves naturelles interdits aux chasseurs ont été spécialement créés pour ces animaux.
Des choses à faire pour éviter le braconnage et l'extinction d'une espèce. On peut faire des dons pour des associations d'aide aux animaux en danger ou en parler autour de nous.
Nous avons interrogé trois personnes sur le sujet qui sont M. Kerlegot, prof de PS, Jade, élève de 4e, et Mme Bernard, professeur d'anglais.
Est-ce que le braconnage vous touche ?
C'est un phénomène qui me touche pas particulièrement, non, Evel.
Que feriez-vous pour lutter contre ce phénomène ?
Eh bien, on pourrait mettre des peines plus importantes pour les braconneurs si jamais on voit qu'il touche à des espèces qui sont en voie de disparition, peut leur mettre des peines judiciaires ou même des peines de prison plus importantes que ce qu'ils ont maintenant.
Est-ce que le braconnage vous touche ?
Bah, je trouve que le braconnage est quelque chose de très malsain, sachant que déjà certaines espèces sont en voie de disparition, on est là pour les tuer. Je trouve que ouais, je suis contre le braconnage.
Et que feriez-vous pour lutter contre ce phénomène ?
Bah, je m'y connais pas trop, mais déjà, je pense mettre des alertes en disant de partager quelque chose contre le braconnage et ensuite aller directement sur le terrain et voilà.
Est-ce que le braconnage vous touche ?
Oui, je pense que toute forme de braconnage, enfin toute forme d'action qui est en dehors de la loi m'interpelle.
Et que feriez-vous pour lutter contre ce phénomène ?
Alors là, c'est une vaste question. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux faire. Bah, peut-être mettre des messages de-ci, de-là, à droite, pour éviter que ceux qui s'adonnent au braconnage continuent, les sensibiliser, leur dire que ça peut être dangereux, peut-être pour une race d'animaux en particulier, que ça met la nature en danger. Je ne sais pas trop.
D'accord, merci.
Après cette chronique malheureuse, passons à une musique.
Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier when the morning comes.
Après cette musique, passons sur un cas sérieux, le dialogue sur le sexisme. Avec Jade et Léa.
Salut, vous êtes avec Jade et Léa. Nous avons créé une petite scénette afin de parler du sexisme. Nous avons choisi ce sujet car nous trouvons que cela ne devrait pas exister. Bonne écoute. Salut, tu vas bien ?
Bof, pas vraiment.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ?
Ça m'énerve de devoir supporter ces moqueries.
De quoi tu parles ?
Bah en gros, aujourd'hui, je me suis coupée les cheveux et quand les filles ont vu ma nouvelle coupe de cheveux, elles m'ont traité de garçon manqué, ça m'a beaucoup blessée et j'en ai même pleuré.
C'est du sexisme ?
Bah, je sais pas vraiment ce que c'est.
Alors, sexisme, c'est une discrimination envers une personne en raison de son sexe. Je te donne un exemple. Genre, les espées, c'est pour les garçons et les princesses, c'est pour les filles. Tu vois le genre ?
Carrément, c'est exactement ça.
Tu as bien été victime de sexisme. Si ça se reproduit, n'hésite pas à en parler autour de toi. C'est nécessaire d'en parler afin de partager ton expérience et de soulager. Il ne faut pas que cela se reproduise.
Ouais, mais c'est pas forcément facile à en parler.
Je suis d'accord avec toi. La prochaine fois que ça t'arrive, tu peux leur dire que t'es pas forcément d'accord avec elles et qu'aujourd'hui les filles peuvent faire les mêmes choses que les garçons et les garçons les mêmes choses que les filles.
Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup fait de bien de te parler.
T'inquiète, si t'as encore besoin de venir me parler, n'hésite pas.
Ok, merci, peut-être à la prochaine.
Salut ! On a interviewé notre professeur, on vous laisse écouter.
Bonjour, que pensez-vous du sexisme ?
Alors, bonjour. Aujourd'hui, il me semble que le sexisme a une place très importante, malheureusement, dans notre société. C'est un fait contre lequel des centaines de personnes se battent tous les jours. Il s'agit bien de discriminer une personne en raison de son sexe, et comme l'indique la définition, discriminer, c'est quelque chose de dramatique.
Avez-vous déjà été victime de sexisme en tant que professeur ?
En tant que professeur, non, de par mes obligations, je travaille dans un milieu qui est plutôt féminin. Donc je n'ai pas vécu de sexisme à proprement parler. Par contre, j'ai une expérience parallèle qui était en cuisine, j'ai été commis de cuisine, et je peux vous dire que le sexisme avait une place très importante. Il a été très difficile pour moi de montrer que je pouvais avoir les mêmes capacités de travail qu'un homme.
Un élève est-il déjà venu vous voir pour ce genre de choses ?
Alors non, aucun élève n'est venu me voir pour parler de sexisme. Peut-être parce que c'est un sujet que finalement on aborde peu en classe. Peut-être que certains sont victimes de sexisme sans le savoir réellement, ou en tout cas sans oser en parler.
Si cela arriverait, comment réagisseriez-vous ?
Alors la première chose que l'on conseille en tant qu'enseignant, que ce soit concernant le sexisme ou toute forme de discrimination qui peuvent se dérouler en classe ou à l'extérieur, c'est effectivement d'en parler à un adulte, et à ce moment-là, des mesures pourront être prises, effectivement, contre les personnes qui agissent de manière sexiste.
Merci de nous avoir prêté attention et d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Après ce dialogue, Passons à une nouvelle chronique sur le harcèlement avec Coralie, Lohan, Charline et Oscar.
Le harcèlement débute à cause de différences entre le harcelé et le ou les harceleurs. Le harcèlement peut aussi débuter car vous êtes nouveau ou nouvelle dans une classe ou dans une école.
Le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles, répétés, visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Ce type de comportement peut être habituel et impliquer le statut social et physique.
Pourtant, cette construction peut être gravement menacée par le harcèlement à l'école. Ce type de violence entraîne très souvent des séquelles graves chez la victime, l'agresseur ou le témoin, pouvant aller d'états anxieux ou dépressifs à des troubles du comportement, en passant par l'échec scolaire.
En France, selon le ministère de l'Éducation nationale, 10% des collégiens sont harcelés, soit 3 par classe de 30, 6% subissent un harcèlement sévère, voire très sévère.
Comment éviter de devenir la victime de harcèlement ? Montrez que vous avez confiance en vous-même.
Cherchez le soutien de vos amis, de vos proches.
Apprenez à vous défendre.
Arrêtez de vivre dans la peur.
Croyez en vous.
Évitez votre harceleur le plus possible.
Ne tombez pas au niveau de votre harceleur.
Ne montrez pas à votre harceleur que ce qu'il vous fait vous provoque un effet.
Parlez-en à un adulte ou une personne représentant l'autorité.
Ne vous accusez pas de votre harcèlement.
Le harcèlement à l'école a toujours existé, mais depuis Internet et Facebook, les collégiens sont de plus en plus les victimes et chacun doit agir pour l'arrêter avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Pour un ou une élève harcelée, la première chose à faire est d'en parler à ses parents parce qu'il ne faut pas rester seul avec ce problème.
Le harcèlement existe dans la vraie vie, mais il s'exprime aussi sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement a ceci de particulier qu'il n'a pas lieu devant quelques élèves seulement, mais sur l'ensemble d'un réseau social. Derrière son écran, l'harceleur se sent en sécurité. Il ne se trouve pas en face de toi, ni exposé à ta colère, ni à ta souffrance, qui pourrait dans la vie réelle le faire changer d'attitude. Le cyberharcèlement peut conduire à des tragédies. Dans tous les cas, si tu as un doute sur la conduite à tenir, parle-en à un adulte.
Comme notre développement l'explique et le démontre, le harcèlement existe depuis toujours, bien qu'il eût été longtemps négligé par les autorités. Dans la plupart des cas, le harcèlement scolaire peut commencer lors des années de primaire, mais surtout de collège.
C'est en effet une des périodes phares où l'identité de l'enfant se forge. Cela peut amener à de très graves conséquences non envisagées par les agresseurs. Le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication a entraîné une nouvelle forme de harcèlement, le cyberharcèlement. L'anonymat permet aux harceleurs de se protéger derrière un masque et de faire du mal à leurs victimes.
Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ?
Nous avons choisi ce sujet car aujourd'hui nous entendons beaucoup parler du harcèlement et il prend beaucoup d'ampleur, surtout au collège.
Nous avons décidé de choisir ce sujet car il y a de plus en plus de personnes harcelées, surtout des collégiens, et les conséquences peuvent s'avérer très graves.
Est-ce qu'il y a du harcèlement dans votre collège ?
Non, dans notre collège, il y a des personnes qui ont moins d'amis et qui sont un peu plus isolées que d'autres, mais il n'y a pas pour autant du harcèlement.
Non, il n'y a pas de harcèlement dans notre collège, du moins, non. Du moins, nous n'en voyons pas, mais le film Marion 13 ans pour toujours, que nous avons vu l'année dernière en 5e et que l'on peut retrouver sur YouTube, nous montre que même si on ne le voit pas, il peut avoir des conséquences très graves.
Après cette chronique incroyable, une nouvelle chronique sur B. Hassani, Valentin et Melvin.
Bilal Hassani, né le 9 septembre 1999 à Paris, est un auteur, compositeur et vidéaste français. Il est d'origine marocaine. Il débute le chant à l'âge de 5 ans devant sa famille, puis débute ensuite des cours de chant. En 2015, poussé par son ami Nemo Schiffman, finaliste de la première saison, Bilal Hassani participe à la deuxième saison de The Voice Kids et se présente aux auditions à l'aveugle le 23 juin 2017.
Bilal Hassani annonce publiquement son homosexualité sur les réseaux sociaux, la veille de la Gay Pride de Paris à laquelle il se rend. Il est aussi décrit comme queer.
Le mot queer est utilisé par les personnes qui n'adhèrent pas à la vision binaire des genres et des sexualités et qui refusent d'être étiquetées selon leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
En décembre 2018, il est victime de cyberharcèlement et reçoit des menaces de mort. Il est l'objet d'attaques racistes et homophobes et de menaces de mort quotidiennes. Suite à la vague de haine que rencontre Bilal Hassani, les associations Urgence Homophobie et Stop Homophobie s'associent pour attaquer en justice chaque personne qui a insulté, discriminé ou menacé Bilal Hassani sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Le 27 janvier 2019, les deux associations recensent déjà 1508 insultants, discriminants ou haineux en raison de son orientation sexuelle et de son apparence physique. Le 6 décembre 2018, le jeune chanteur est annoncé parmi les 18 candidats participant à Destination Eurovision grâce à sa chanson « Roi ».
Ses musiques sont en 2016 « Wannabe », en 2017 « Follow Me », en 2019 « Roi », Destination Eurovision 2019.
Nous sommes contre le harcèlement et nous sommes pour le vivre ensemble. Tout le monde a droit de vivre avec ses choix de vie.
Chaque personne a la liberté de décider et de choisir leur goût et comme elle vivra, quelle que soit leur croyance ou le groupe social auquel elle appartient. Donc on doit la respecter et ne pas la déranger, la gêner ou la discriminer simplement parce que nos idéologies inculpées dès l'enfance par la société sont différentes.
Passons à une nouvelle musique après cette chronique. Angèle, tout oublié.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Et une envie parfois...
Une dernière chronique sur la danse, Léane, Alexane et Yaël.
Pour être sûr de faire une danse qui te plaît, écoute bien tous ces conseils et ces critères.
Pour faire de la danse bretonne, il faut aimer les musiques bretonnes, être rigoureux, être sûr de soi, connaître par cœur les gestes de la danse, il faut être rapide dans ses gestes. Pour faire du Bollywood, la danse Bollywood est une danse rapide qui demande énormément de coordination dans les mouvements. Le Bollywood est la danse indienne qui mélange le traditionnel, la modernité et le ludisme. Pour faire du modern jazz, le modern jazz possède un rythme très sportif. La danse moderne désigne un ensemble de styles et utilise la pesanteur, le poids du corps, la chute, le contact avec le sol. La danse moderne jazz impose un certain sens du rythme. C'est le mélange surprenant entre l'énergie et la décontraction.
Pour faire de la danse orientale, il faut savoir faire des mouvements très rapides et des tremblements du bassin. Cette danse est réservée aux femmes qui la dansent en solo et pieds nus. Pour faire du hip-hop, il faut maîtriser des figures acrobatiques, avoir de l'énergie et être plus dynamique possible. S'aider de son imagination, il faut savoir pratiquer une ou plusieurs des disciplines spéciales, beatbox, streetwear, savoir faire un tag, jing, table de mixage, musique de rap, bruitage et surtout de la danse pour laquelle il faut beaucoup d'équilibre. Cette danse est mixte. Pour faire de la salsa, il faut danser dans le rythme, c'est une danse de couple.
Pour faire de la danse classique, il faut beaucoup d'entraînement, de synchronisation et de technique. Il faut être minutieux et rigoureux, avoir de la confiance en soi et un peu de tenue. Il ne faut pas avoir peur de se lancer et avoir peur du mal de pieds et de jambes. Il faut être très agile et très souple. Il faut beaucoup d'équilibre, c'est une danse mixte, il faut connaître beaucoup de positions. Pour faire du flamenco, il faut beaucoup de technique, mais surtout beaucoup de tempérament pour donner un sens à la danse. Il faut savoir claquer des doigts ou de la langue et faire du bruit avec ses talons pour rythmer la musique. C'est une danse qui se danse en couple. Pour faire des claquettes, il faut avoir beaucoup d'équilibre, car en dansant, le buste reste immobile. Il n'y a que les jambes qui bougent avec beaucoup de vitesse, et c'est pour ça qu'il faut que les pieds soient synchronisés. C'est une danse mixte.
Conclusion, il faut bien choisir sa danse car c'est essentiel de se plaire dans son activité pour prendre du plaisir pendant son temps libre.
L'émission est maintenant terminée. Au revoir.
Radio de la meilleure classe, radio de la meilleure classe.